Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Le grand oral des grandes gueules.
Et nous accueillons Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Monsieur Abad, bonjour.
Bonjour Olivier Truffaut.
Je sais que vous avez une petite mine, enfin ça se voit pas trop, mais vous êtes couché, enfin vous n'êtes même pas couché puisque ça s'est terminé vers 5h30 les débats à l'Assemblée nationale ce matin. L'Assemblée qui a donc adopté le nouveau projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension du pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants. Vous avez voté quoi ?
D'abord, j'ai voté pour la vaccination, j'ai voté contre le pass sanitaire, parce que moi, je suis plus favorable à une vaccination généralisée pour tous qu'à un pass sanitaire qui est liberticide et presque aussi liberticide que le confinement. Et on le verra cet été, j'en suis certain.
Obligation vaccinale, vous êtes pour une obligation vaccinale ?
Moi, je suis déjà pour l'obligation vaccinale pour les soignants, pour tout le personnel qui est en contact avec des publics fragiles dans les établissements médicaux et médico-sociaux, pour les pompiers, nous avons fait des amendements aussi pour les policiers, pour les gendarmes, pour les douaniers. Et je pense qu'au bout du bout... Au bout du bout, on va aller à une vaccination généralisée parce que c'est ça. Parce qu'il faut pas, il faut se dire les choses. Le pass sanitaire, c'est quoi ? Le pass sanitaire, c'est une vaccination obligatoire déguisée qui ne dit pas le nom et qui est beaucoup plus hypocrite. Moi, je préfère qu'on assume les choses et qu'on discarte sur table.
Alors, le pass sanitaire, il est voté. On verra ce que décide le Sénat. Mais enfin, a priori, là, on sait que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Il va donc devoir s'appliquer. Il sera suffisant, selon vous, pour contenir la quatrième vague ?
Non, je ne crois pas, parce qu'il va être très difficile à mettre en œuvre en pratique. Le problème de ce pass sanitaire, c'est que on va le voir quand on va aller au café, au restaurant, dans les activités de loisirs, dans les parcs, dans les lieux culturels. Ça va être très compliqué parce qu'on fait porter la responsabilité sur des professionnels dont c'est pas leur job. C'est pas leur job de contrôler une identité. Et donc, il va y avoir beaucoup de, malheureusement, de faux et autres. C'est mieux que rien, mais honnêtement, c'est un outil qui ne suffira pas très clairement à endiguer la quatrième vague. C'est très clair. Ce qui suffira, c'est la vaccination et uniquement cela.
Vous pensez, par exemple, que dans les gens dans la rue...
Etienne Libig, alors, chacun son tour.
Dans les gens dans la rue aujourd'hui qui manifestent contre le pass sanitaire, est-ce que vous pensez que ces gens sont pour la vaccination obligatoire pour tous ?
De toute façon, ils sont ni l'un ni l'autre.
Pas certains. Mais moi, je ne parle pas à celles et ceux qui sont déjà contre tout. Mais il y a 16 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas eu encore une seule première dose d'injection. Et parmi ces 16 millions, il y a 3 millions de personnes fragiles qui n'ont toujours pas reçu de vaccination. Et ceux-là, ils ont des doutes, ils ont des interrogations, ils n'ont pas des certitudes. Ils s'interrogent sur les effets à long terme du vaccin. Et c'est ceux-là qu'il faut convaincre, c'est ceux-là qu'il faut faire la pédagogie.
Mais convaincre
et redonner la confiance.
Obligé, non mais convaincre.
Moi, je préfère...
Vous êtes pour l'obligation.
Non, mais pourquoi ? Parce qu'on est acculé. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est parce qu'on n'a pas su créer les conditions de la confiance. C'est pour ça qu'on impose la contrainte. Moi, j'étais pour la pédagogie, la confiance, et essayer de faire en sorte que ça soit incitatif. Malheureusement, aujourd'hui, on est acculé. On a un variant qui arrive, peut-être demain encore un nouveau. Et vous verrez. Mais à la fin des fins, on sera obligé. Pourquoi ? Parce qu'à la rentrée, vous aurez le débat, par exemple, sur les enseignants. Vous aurez le débat sur toutes celles et tous ceux qui seront scolarisés. Et donc, ce débat-là, il sera toujours là.
Mais tant que les Français sont vaccinés. Mais...
Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il essaye de le faire comment ? Par une vaccination obligatoire déguisée qui s'appelle le pass sanitaire. Et par une citation. C'est une stratégie politique. Voilà, très clairement.
C'est un manque de courage politique ?
Non, mais. Après, il faut aussi mesurer le degré d'acceptation sociale. Moi, ce que je regrette, c'est que on n'ait pas fait des annonces un mois plus tôt. Ouais. Parce que ce pass sanitaire, on aurait pu le mettre en œuvre. Mais vous voyez, je vous prends un exemple.
On le fait dans l'improvisation.
Je suis dans le département de l'Ain, on a un beau parc qui s'appelle le Parc des Oiseaux. Eh bien, le directeur du Parc des Oiseaux me dit, vous voyez, moi, le pass, je suis pour à long terme. Ouais. Parce que ça sécurise la clientèle, ça permet de s'organiser, ça évite les stop and go de confinement ou non-confinement. Il me dit là, le faire le 15 juillet, mais alors que c'est le moment où j'ai le plus de monde, c'est impossible, c'est ingérable et impraticable. Donc c'est ça la difficulté.
Oui, c'est vrai qu'on pousse les professionnels à anticiper tout le temps. Alors,
est-ce que vous réalisez que si demain on rend la vaccination obligatoire, c'est la guerre ?
Non.
Parce qu'on a mis en place un pass sanitaire, on a des centaines de milliers de personnes. Alors, je peux vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à se battre contre le vaccin obligatoire. Aujourd'hui, est-ce qu'on est. Moi, je n'ai pas dit que j'étais contre, mais je dis aujourd'hui, est-ce qu'en France, on est prêt à accepter le vaccin obligatoire ? Je pense qu'il y a une partie de la population qui n'est pas du tout.
Je pense qu'on va y venir progressivement. On a commencé sur le personnel soignant, sur l'établissement de santé, sur les pompiers, demain certainement sur les gendarmes, sur les policiers. Ensuite, on ira sur ceux qui reçoivent du public. Et petit à petit, ça va se généraliser. Si on y arrive sans l'imposer de manière. Je veux dire obligatoire, c'est tant mieux. Mais j'en suis pas sûr, parce que pour cela, ça nécessite d'abord d'avoir suffisamment de doses partout sur le territoire, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Ça nécessite de créer la confiance. Je vous prends juste un exemple simple. Un jeune, il hésite toujours sur le vaccin, parce que un jeune de 45 ans, il se dit quoi? Il se dit, moi, si j'ai la Covid, je vais avoir une forme pas très grave de la Covid. Par contre, si je me fais vacciner, c'est quoi mes effets à long terme sur ma santé? Est-ce que je développe dans un cancer dans 10 ans? C'est ça qu'il faut rassurer là-dessus. Il faut expliquer qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas la toxicité du vaccin. C'est la question de son efficacité et de sa résistance face aux variants. C'est pas tout à fait le même débat et c'est pas tout à fait la même chose.
Plus de 5 millions de personnes à risque ne sont toujours pas vaccinées, c'est ce que dit l'assurance maladie. C'est donc beaucoup de personnes et ça peut provoquer de nouveau une saturation à l'hôpital. Ludovic Toro.
Oui, Damien Abad, je suis pas de son parti puisque moi je suis du centre droit de l'UDI, mais on pense souvent la même chose.
On n'est pas loin.
On n'est pas très loin. Je le dis parce que ces mots sont les mots, je vous dis, depuis 2h30. Hein. Il a repris tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas de Bob. Il a pas le courage, donc ça, c'est une vaccination forcée qu'on est en train de voter là. Ou alors je comprends rien. Parce que si on n'a pas les chiffres qu'il faut en septembre, ce sera de pire en pire. Il faudra augmenter. Il y a manqué. Et on l'a vu les chiffres par rapport aux autres pays où tous les gens de plus de 80 ans sont vaccinés et nous il y a 20%. Donc on a un échec de communication en termes pour rassurer les gens. Et il a raison. Mais le variant, il est là depuis 3 mois. Hein. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et Damien, il a raison. On n'a rien fait.
Attends, on aurait pu se préparer. On était le pays le plus anti-vax avant le Covid.
Oui, mais et ben, c'est
de
justement
toute l'histoire de l'humanité.
Et ben, faisons tout pour pas être anti-vax.
Ludovic, aujourd'hui, la problématique de ce vaccin pour les anti-vax, c'est que le gouvernement, pendant très longtemps, nous a expliqué que le baromètre qui permettait de prendre des décisions, c'était le nombre d'entrées en réanimation. Okay. Aujourd'hui, on vient de dévier ce baromètre par le nombre de cas Covid tous les jours. Alors, les antivax, ils voient que le nombre de cas Covid augmente, le nombre d'entrées en réa diminue. Excuse-moi. Donc, ils se disent, nous, on n'est pas d'accord. Parce que le Covid, c'est pas parce qu'il y a 20 000 personnes, dont 19 900 vont prendre un Doliprane, qu'on va se faire vacciner.
Non, tu te trompes. Je vais te dire pourquoi tu te trompes.
C'est un problème de cohérence, le baromètre.
Non, je vais vous expliquer pourquoi.
Très vite, parce que Damien Red,
c'est clair, ça va plus vite parce qu'il est beaucoup plus rapide. Donc, moralité, attendons 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour voir les gens qui rentrent et qui vont à l'hôpital. C'est trop tôt.
Parce que 60 fois plus, ça doit aller plus vite.
Non, mais ça ira.
Là, c'est les mathématiques, la médecine.
Non, t'as pas compris. Non. 60 fois plus contaminé, mais pas 60% de plus pour aller en réa. Là, c'est pas
surtout
la même vitesse.
Qu'on est vacciné, donc
c'est que là, si vous voulez, c'est monté beaucoup plus que le deuxième et là, beaucoup plus que le troisième. Donc là, tout le monde.
Il est plus contagieux, oui.
Attendons les 3 semaines pour dire oui ou non.
Elles sont passées les 3 semaines.
Alors,
en Angleterre, oui. Mais cher Rangel, vous n'êtes pas tout seul, Damien Abad. Pardon.
Merci, ils sont gentils. Ça fait déjà
en plus, ça fait 2h30 qu'ils parlent déjà.
J'ai l'impression d'être un peu dans l'ambiance de l'hémicycle hier soir. Finalement, je continue ma nuit blanche, c'est bien.
Ouais, je suis un peu le Richard Ferrand, moi, finalement, des grandes gueules. Damien Abad, je voudrais qu'on parle quand même de Valérie Pécresse, parce que c'est l'autre sujet d'actualité. La présidentielle aura lieu en avril prochain. On a donc une nouvelle candidate, Valérie Pécresse, c'est la deuxième. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois, ce ne sont pas des républicains. Donc, il y a Xavier Bertrand, Valérie Pécresse.
Ça va arriver.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette candidature?
Moi, d'abord, c'est toujours. C'est normal qu'elle soit candidate. Elle est présidente de la première région de France. Elle a été ministre d'expérience. C'est une femme d'expérience qui a des qualités, des compétences. Donc, c'est tout à fait logique et normal qu'elle soit candidate. Et c'est tant mieux parce qu'au moins, on sort d'un processus de transparence. Parce que le truc, on dit je suis candidat, mais finalement, peut-être que non, etc. Là, au moins, c'est clair. Deuxième chose, c'est que de toute façon, à la fin des fins, il faut qu'il en reste qu'un seul. Et ça, c'est une certitude. Vous avez Xavier Bertrand qui s'est déjà déclaré. Il y a aussi une interrogation sur Laurent Wauquiez et sur Michel Barnier. Je pense que ça se joue entre ces quatre-là. Voilà. Après, il faut qu'entre maintenant et le mois de septembre, on sache vraiment si on est à 2, à 3 ou à 4, voire plus.
Donc, il y aura une primaire, forcément, alors?
Pas forcément.
Ah bon?
Pas forcément, parce que moi, j'ai beaucoup de réserves sur la primaire. J'ai beaucoup de réserves. Parce que vous imaginez aller faire une primaire en pleine crise sanitaire, au moment où on va se battre parce que face à un nouveau variant, où on va avoir des tensions sur le système hospitalier, où on va avoir aussi le budget, la reprise économique. Je suis pas sûr, franchement, que ça soit pas un peu nombriliste. Ensuite, parce qu'on aura toujours la comparaison par rapport à l'ancienne primaire, qui a été un succès populaire, il faut le dire.
Oui, 4 millions
de votants. Je suis pas sûr qu'on retrouve ce même succès populaire.
Le succès s'est arrêté là.
Voilà. Oui, mais on pourra revenir.
On peut inverser ce coup-là.
Voilà. Et là, on va pouvoir changer les choses. Mais voilà, donc, après, je pense, peut-être que ça se fera par une primaire, peut-être pas. Moi, je le souhaite
vous pas.
Pas
très
non, je suis pas fan de la primaire.
Comment on est partagé?
De manière la plus naturelle.
Plus républicain.
Alors, attendez, comment on est partagé?
De la manière la plus naturelle possible. Il faudra qu'à un moment donné, on se mette tous autour de la table et qu'on dise, voilà, concrètement, à l'automne, est-ce qu'il y en a un ou une qui se détache, qui est celui ou celle la mieux placée? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons battre Emmanuel Macron. La vérité des régionales, c'est quoi? C'est que tout le monde a compris que Marine Le Pen ne gagnera jamais une élection présidentielle. et que la gauche est trop émiettée pour battre le président de la République sortant. Donc le match, il est entre nous et Macron. C'est simple.
Oui,
donc,
mais votre candidat,
il est entre
votre
vous
candidat,
vous,
votre candidat ou votre candidate, elle doit aussi se démarquer d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai une interrogation. Je la partageais tout à l'heure. C'est Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Je vois pas vraiment une ligne de démarcation très forte avec Emmanuel Macron sur le fond des idées et de ce qu'il pourrait faire au pouvoir.
Je trouve que Xavier Bertrand a mis plus de marqueurs de différenciation.
Oui.
D'abord, dans l'incarnation politique en tant que telle, il incarne plus la France des territoires que Emmanuel Macron. Il a fait aussi des propositions très concrètes sur l'autorité, sur l'immigration, sur la question du régalien. Et on voit des différences entre le « en même temps » et la politique que veut mener Xavier Bertrand. Et puis, on voit aussi dans la manière de gouverner, parce que c'est important, c'est qu'on ne gouverne pas seul, de manière solitaire, en prenant des décisions tout seul à l'Élysée. Mmh. Il faut remettre au goût du jour le Parlement, les corps intermédiaires, le gouvernement, les ministres, la majorité parlementaire. Donc je trouve en tout cas que, pour Xavier Bertrand, il y a vraiment des marqueurs de différenciation qui sont posés avec le président de la République, parce que oui, il faut avoir des marqueurs et avec le président de la République et avec le Rassemblement national, pour montrer aux Français qu'il y a une vraie valeur ajoutée de voter à droite. Oui. Sinon, si c'est les mêmes, ça ne sert à rien.
Mais à gauche, on voit que la guerre des égaux est tellement incroyable que personne ne va vouloir se retirer au profit des autres. Ça paraît dingue. Déjà qu'on a pu, on représente pas 50% des Français, mais en plus, on va y aller à 18, donc le mieux placé, il va avoir 5% à la fin. Donc c'est ridicule. Mais à droite, vous risquez d'être exactement dans le même phénomène. Je pense pas que les égos des gens de droite soient si extraordinaires qu'ils puissent s'effacer au profit du collectif. J'ai pas ce sentiment. Vous allez arriver à 5 à l'élection.
Non, on n'est pas la gauche. Et je vais vous dire pourquoi la différence, c'est quoi? C'est la différence, c'est qu'on peut gagner. Et la différence, c'est que la France n'a jamais été aussi à droite et nous aussi éloignés du pouvoir. Et que donc, il y a une responsabilité collective. Parce qu'on se dit que si on y va avec un seul candidat, on a vraiment une chance pour jouer la gagne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous allez arriver au mois de... Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas un peu de bazar et de tension sur la friture, on n'est pas là pour se faire la langue de bois. Bien sûr que par moment, ça va un peu tendre. Mais moi, je pense qu'au début de l'année 2022, il y aura une pression politique extrêmement forte pour celui ou celle qui sera derrière l'autre et qui restera toujours en
course. Il sera derrière où? Sur les sondages?
Dans les sondages, bien sûr. Mais, et puis dans la capacité à rassembler des élus.
On a vu Balladur et Chirac partir.
Oui, d'accord. Non mais attendez.
C'est pourquoi ne pas avoir deux candidats à droite? Parce que pendant longtemps, il y a eu deux candidats à droite.
Sauf qu'il n'y avait pas le Front National à 25%.
On ne peut pas, là.
C'est impossible. Honnêtement, si on y va avec deux candidats de droite,
c'est mort.
En plus, il faut se dire aussi les choses.
Il y en aura d'autres.
Quand même le président de la République qui aussi grignote sur le centre droit. Donc vous avez un président de la République qui grignote sur le centre droit. Vous avez un Rassemblement National qui a 25. Si on y va avec deux candidats, là, je suis sûr qu'on a perdu.
Mais vous allez chercher. Vous avez dit tout à l'heure que Marine Le Pen ne pourrait pas gagner les élections. C'est le problème. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, par contre, les idées de Marine Le Pen peuvent faire gagner les élections à la droite?
C'est-à-dire... Moi, je crois pas au fait que l'original, la copie soit mieux que l'original. Je le dis très clairement, c'est pas en courant après le Rassemblement National qu'on gagnera. La droite doit être elle-même, assumer ses propres convictions. Et moi, je n'ai rien en commun avec le Rassemblement National.
Chez Xavier Bertrand, il y a une petite tendance à des petits discours qui ne tenaient pas avant. On sent qu'il y a de l'appel d'air quand même.
Non, mais il y a des choses qu'on dit. Par exemple, nous, les quotas d'immigration, on l'assume très clairement. C'est une politique qu'on a portée sur la lutte contre l'immigration clandestine également, sur la question du regroupement familial également. C'est pas Marine Le Pen de porter ces débats-là. La vérité, on l'a encore vu hier en séance. Il y a une vraie fragilité chez elle.
Mais à droite, il y a peut-être un autre candidat qui peut apparaître, c'est Éric Zemmour. Est-ce que vous craignez la candidature d'Éric Zemmour?
Pour moi, ce n'est pas une candidature de solution, en tout cas pour la droite. Ça sera une candidature qui sera un vrai problème pour l'Assemblée nationale et qui peut en être un pour nous si on se trompe de combat. La vérité, c'est quoi? C'est que pour moi, que ce soit M. Zemmour ou Mme Le Pen, c'est la même chose, c'est pas la droite républicaine, c'est pas la droite de gouvernement, et c'est pas celle-là qui nous fera gagner.
Mais la droite, pour moi la droite, c'est cette capacité, notamment sur la question économique. D'ailleurs, Macron, finalement, il a relativement été élu sur la question économique, c'est-à-dire il est arrivé, c'est la start-up nation, c'est je vois plus loin que tous ces vieux mecs là qui sont là à nous faire de l'économie des années 50, je vois l'économie du 21e siècle, l'économie chinoise, l'économie américaine. C'est là-dessus qu'il a été élu. Non. C'est pas sur son idéologie. Attends, laisse-moi terminer.
Il termine.
Et moi je pense que la droite, c'est ça. Or, sur les les questions économiques, sur les questions de, par exemple, comment on se préserve de ce grand remplacement qui va être la Chine, qui nous fera pas de cadeaux dans les 10 années qui viennent. Sur comment, moi, je n'entends pas dans les programmes de la droite une véritable socle sur comment on va sortir la France et de sur le plan économique. Je l'entends pas.
Moi, je pense d'abord que il y a une différence entre le moment où vous faites la campagne et l'exercice du pouvoir. C'est vrai qu'il a été aussi en partie élu sur cet élan réformateur, cette capacité à dépasser les clivages droite-gauche. On a vu le résultat, c'est pire qu'avant. Mais aujourd'hui, cet élan réformateur, il est cassé. Vous dites sur les réformes économiques et sociales, rien sur la retraite, très peu sur l'assurance chômage. La vérité, c'est très peu sur le marché du travail. À la fin des fins, il n'y aura pas de grandes réformes économiques et sociales. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire sur l'économie ? On doit faire deux choses. D'abord, on ne doit pas se renier. On est le parti des libertés économiques. Donc de la baisse des charges sur l'entreprise, sur la compétitivité, sur la recherche, l'innovation, le progrès. Et puis ensuite, et ça c'est nouveau depuis la crise sanitaire, on doit être aussi le parti qui redonne de la souveraineté économique. Quelle est la grande leçon de cette crise sanitaire ? C'est que la France, elle est tombée par terre parce qu'elle ne fabriquait pas de masques. Ce qui est quand même incroyable, on aurait dit ça il y a 6 mois, personne n'y aurait cru. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut retrouver de la souveraineté sanitaire dans des secteurs stratégiques clés.
Des masques, on sait
pas
relever.
Là-dessus, Macron, il est décrédibilisé. Parce qu'il a fait l'exact contraire. Il a vendu les bijoux de famille dans tous les secteurs clés. Et on a une vraie différence politique.
J'ai pas souvenir que les Sarko, particulièrement été des protecteurs de l'économie française vis-à-vis.
Il y a eu un avant et après crise sanitaire. Là-dessus, ça a évolué aussi à droite.
Si vous voulez modifier ça, c'est très bien, mais il va falloir peut-être changer le droit social français. Sinon, on risque de payer nos produits 2 fois plus cher dans les hypermarchés.
Et moi, je suis problématique. Il y a quelque chose qui est tombé en désuétude parce que voilà. Mais ça s'appelle la TVA sociale.
Ouais, ben oui.
Parce que quand, à un moment donné, vous importez des produits qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, environnementales et culturelles que nous, eh bien, vous les taxez à l'importation et vous corrigez ce différentiel-là. Alors, je sais que
ça va se ressentir à l'arrivée sur les prix.
Non.
On paiera plus cher.
Les
produits.
Parce que,
Est-ce que la France est prête à payer ses produits 30% plus cher?
La différence aussi, c'est que la TVA sociale, ça sera fait. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le travail qui supporte tout le coût de la protection sociale. Aujourd'hui, en France, il y a une trop grande différence entre salaire brut et salaire net, parce qu'en fait, tout votre système de retraite, bien sûr, et de protection sociale,
60%.
Il est financé par le travail. Ouais. Avec la TVA sociale, vous changez ça. Vous n'êtes plus financé par le travail.
Grande théorie, c'est qu'il est plus agréable de payer des impôts en consommant qu'en travaillant.
Ça, c'est sûr.
Voilà. Et le problème de la France, ça fait le choix inverse.
Merci Damien Abad d'être venu dans les grandes gueules.